C'est un des rares effets positifs du confinement l'année dernière. Il a permis de mesurer précisément le marché parallèle du tabac en France. Entre mars et mai de l'année dernière, et même juin avec la fermeture des frontières, il était quasi impossible de s'approvisionner à l'étranger, dans les pays frontaliers ou sur le marché de contrebande. Les buralistes, en revanche, restaient ouverts. On a donc pu mesurer le chiffre d'affaires supplémentaire qu'ils réalisaient quand le marché parallèle est fermé. Une mission d'information parlementaire s'y est attelée. Résultat, ce marché parallèle représente 14 à 17% de la consommation de tabac, près de 30% dans les départements frontaliers. La perte de recettes fiscales pour l'État est estimée entre 2,5 et 3 milliards d'euros. On vous a déjà parlé de ce sujet dans le journal de 13h. Nous voulions aller plus loin aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Philippe Coy.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération des buralistes. Et bonjour Corinne Cléostrate, pardon.
Bonjour.
Sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre les fraudes à la direction des douanes. Et 01 45 24 7 1000 et France Inter, rubrique Réagir pour vous, auditeurs, pour vos interventions. Philippe Coy, petite question d'abord, est-ce que l'activité est revenue à la normale depuis la fin du confinement? Est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez gardé une partie des clients qui avaient quitté le réseau parallèle le temps du confinement?
Alors vous avez bien fait de parler du réseau légal et, ouais, et du marché parallèle. Nous avons encore gardé quelques clients, mais malheureusement, dès la réouverture de ces frontières, ils ont repris leurs mauvaises habitudes, si je peux dire ainsi.
Bon, le confinement a permis de mettre en évidence donc ce que vous dites depuis des années, au fond, l'importance du marché parallèle en France. Est-ce qu'il y a une importance toute particulière de ce marché, plus grande que chez vos confrères d'autres pays?
Oui, parce que bien évidemment, il n'aura échappé à personne que le prix du tabac est le plus élevé en France par rapport à l'Europe. Et il y avait l'Angleterre qui n'est plus dans l'Europe, donc forcément,
oui,
les distorsions du marché, on les observe fortement sur le marché français avec cette évasion de clients, malheureusement, depuis plus de 15 ans maintenant.
Corinne Cléostrate, on parlera du marché de contrebande tout à l'heure, sur les achats à l'étranger, à la frontière. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas?
Eh bien, quand on revient d'étranger, on a droit à une cartouche. Voilà. Donc, ce nouveau seuil a été instauré au mois d'août 2020.
Quel que soit le pays.
Quel que soit le pays.
Oui.
Et donc, c'est un moyen aussi, bien sûr, pour nous, d'avoir un outil supplémentaire, finalement, pour évaluer ce marché parallèle et surtout un outil supplémentaire de lutte contre tous ces trafics qu'on qualifie de fourmis, par opposition à des trafics plus importants de contrebande sur lesquels peut-être on aura l'occasion de revenir.
À partir de quel moment est-ce que vous, douane, vous intervenez?
Alors nous, on intervient sur tous les flux et sur tous les vecteurs. Et notre objectif, c'est de vérifier que ce que vous avez sur vous, dans vos bagages, eh bien, respecte la réglementation telle qu'elle est prévue par le code des douanes, par le code général des impôts ou pour d'autres réglementations encore. Donc nous, on intervient et on regarde si finalement ces cigarettes, elles sont destinées véritablement à votre consommation personnelle. Et c'est à vous de justifier, bien sûr, de cette consommation à caractère personnel. Nous, on intervient en fait à tous les niveaux. On intervient aussi bien sur ces petits trafics du quotidien que sur des trafics de plus grande ampleur qui sont vraiment aux mains de filières qui aujourd'hui sont très bien structurées et organisées et qui interviennent à un niveau transnational.
Il y a une frontière pour les achats à la frontière, il y a une frontière en particulier qui pose problème et on parle de la contrebande dans 3 minutes.
Alors, il y a des frontières. Eh bien, en fait, si on regarde la carte de l'Europe, on voit bien que la France, elle est au carrefour des échanges commerciaux et qu'elle a des frontières avec plusieurs
beaucoup
pays.
Beaucoup de pays, oui.
Beaucoup de pays.
Ouais.
Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une coopération avec nos collègues douaniers des autres pays qui fonctionnent très très bien et même de mieux en mieux, surtout depuis que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant, un peu moins, ce nouveau plan d'action que notre ministre Olivier Dussopt a lancé à l'automne 2020,
et qui
permet justement de renforcer encore cette coopération et qui a donné lieu, je tiens à dire, qu'il y a des saisies de la douane française qui ont permis de démanteler des usines de fabrication clandestine dans des pays voisins comme les Pays-Bas ou la Belgique.
Alors on va détailler cela. Harmonisation fiscale, Philippe Coy, est-ce que les négociations ont commencé, sachant que la France préside l'Union européenne au début de l'année prochaine? Est-ce que la clé est là, harmonisation fiscale, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures pour limiter les achats à la frontière?
Je crois que pour lutter sur l'efficacité du marché parallèle, qu'il soit domestique ou du crime organisé, beaucoup d'outils seront nécessaires, notamment celui que vous venez d'évoquer, de la limitation du seuil du transport du tabac. C'est une décision courageuse que la France a prise en juillet 2020 ouais. et que nous soutenons dans le cadre de la présidence française pour que ça soit dans le droit communautaire demain installé dans tous les pays. Vous parlez de l'harmonisation, je dirais plutôt la réduction des écarts entre les États membres, parce que même si le jeune militant que j'étais il y a quelques années prônait sur la frontière espagnole l'harmonisation, je crois que celle-ci est idyllique dans un monde que l'on n'aurait pas à connaître.
Vous voulez dire que ça peut être qu'à la baisse des taxes et pas à la hausse des taxes dans
d'autres pays. Écarts. Il faut réduire les écarts pour diminuer l'attractivité, et je crois que dans le cadre de la présidence française, c'est inscrit à l'agenda de relever le droit d'assise du minimum de perception pour que justement les autres pays relèvent leur seuil de perception fiscale pour réduire l'écart avec la France, à condition que la France ne continue pas à relever sa fiscalité, sinon on fera toujours une fuite en avant avec les prix français.
Même si les médecins vous diront que ça marche en termes de consommation.
Je vous dirais, regardez les volumes du confinement en mars 2020, je suis pas sûr que les 1,6 millions que certains voulaient voir arrêter de consommer du tabac étaient réels.
L'étude parlementaire établit donc ce marché parallèle à 14-17% de la consommation totale. Est-ce qu'on sait faire la part des achats à la frontière et celle de la contrebande vraiment stricto sensu?
Alors, cette distinction, elle est très difficile à faire. D'autant plus que ensuite, ce qui compte pour nous, c'est de comprendre le fonctionnement de ce marché parallèle. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui que nous avons. Et c'est pour ça que ce plan d'action nous a aussi incité, conduit à modifier notre stratégie, qui est payante, hein, je dois le dire, qui est payante parce que nous en discussions juste avant, on multiplie en ce moment les saisies. Et ce qui est encore plus important pour nous, c'est d'arriver à comprendre quelles sont ces filières.
Alors justement,
qui est derrière cette filière?
Comment fonctionnent ces filières? Qui fabrique les cigarettes? Qui les transporte? Quels sont les pays clés?
Eh bien, vous avez posé les bonnes questions parce qu'en fait, ces organisations, bon, on va les appeler comme ça, hein, de nature criminelle, de criminels, hein, on peut les appeler aussi comme ça, en fait, fractionnent les différentes étapes de la fabrication, du stockage, de la distribution, du transport. Tout est parfaitement segmenté justement pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre, hein, et d'échapper aux services d'enquête. Donc en fait, ce sont des organisations qui ont des moyens logistiques importants, des moyens financiers importants, qui recourent à une main-d'œuvre qu'ils exploitent, hein, puisque ce sont des ouvriers alors souvent qualifiés, puisque ce sont des usines, hein, qu'on trouve pas très loin finalement de nos portes.
En Belgique,
portes,
hein, en Pologne.
Aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, au Portugal, ouais. En Italie, en Allemagne. La France, pour l'instant, a échappé à ce phénomène. Mais on voit bien, et Europol, hein, l'agence européenne nous le confirme dans ses études et analyses très régulières, c'est qu'en fait, ces dernières années, il y a eu des centaines, hein, de démantèlements d'usines. Depuis 2018, ce phénomène s'est accéléré.
Oui.
On compte vraiment plus de 500 démantèlements, alors que ce soit des cigarettes d'ailleurs, hein, ou que ce soit du tabac chicha, en moindre importance, mais tout de même. Et ces organisations donc utilisent une main-d'œuvre à bas coût, finalement, qui est soumise à des rythmes, à des cadencements vraiment très forts, hein, de production.
La main-d'œuvre, ce sont des migrants qui n'ont pas de travail, ce sont
ce sont des demandeurs d'asile, des étrangers en situation irrégulière qui n'ont, quand on les contrôle, ils n'ont pas de documents d'identité. Souvent, l'identité qu'ils nous donnent n'est pas la bonne, d'ailleurs. On a pu le constater dans certaines affaires. Et ce sont des individus qui n'ont pas de domicile et qui donc acceptent différentes choses. Soit ils acceptent d'être enfermés dans des usines dont ils ne connaissent même pas la localisation. Ils travaillent vraiment dans l'obscurité, conditions de salubrité qui sont vraiment très dégradées, pour des salaires évidemment de très faible importance. Ou alors, ils sont recrutés pour faire les transports, contre paiement d'une commission évidemment qui n'est jamais très élevée.
Est-ce que c'est les mêmes réseaux que les réseaux de stupéfiants?
Alors, il y a des organisations qui sont polycriminelles, c'est-à-dire qu'elles travaillent aussi bien sur le segment du trafic de stupéfiants que sur le trafic de cigarettes. Et dans les affaires qu'on a constatées, il est arrivé assez souvent d'ailleurs, que les individus que nous arrêtions étaient connus pour trafic de stupéfiants. Donc on voit quand même qu'il y a une porosité, hein, entre les différentes organisations.
Encore deux questions ponctuelles et puis on va au standard et on entend Philippe Coy. La provenance du tabac proprement dit, le tabac il vient d'où?
Il peut venir de plusieurs pays. Okay. Il n'y a pas un pays en particulier.
Et en préparant cette émission, j'ai lu des chiffres, je voudrais vous les faire valider, entre guillemets, à propos d'un gros trafic intercepté à Nantes, à l'usine. La cartouche vaut 12,50 €, le grossiste l'achète 25, le revendeur à la sauvette 35, le particulier 50 €. On est dans ces ordres d'idées-là ?
On est dans ces ordres d'idées-là, oui.
Bon. Jean-Paul au standard, bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lyon, merci d'être avec nous.
Ben, je vous remercie d'avoir pris mon appel.
Je vous écoute.
Alors, moi, ce que je voulais dire, j'ai été un petit peu surpris de voir qu'il n'y avait que entre 14 et 17%, parce que quand je sors de chez moi pour aller place Bellecour, hein, qui est vraiment la grande place, je
traverse ouais.
une place intermédiaire, une grande place de Lyon, qui est la place Gabriel-Péri, que les Lyonnais appellent place Dupont, et chaque fois, à toute heure du jour, je dirais pas de la nuit, mais enfin un peu à toute heure, je croise... trois ou quatre jeunes qui exhibent des paquets. Quand je dis que je les croise vraiment physiquement, ils sont sur mon parcours. Mmh. Si je regarde de l'autre côté du cours Gambetta, si je regarde de l'autre côté de la rue, il y en a peut-être au total une dizaine. Alors, ils exhibent des paquets. Certains marmonnent Marlboro, enfin, c'est ouais. à peine audible.
Ceux qui habitent le quartier Barbès à Paris voient parfaitement ce que vous voulez dire.
Et d'autres ont un mouvement... De quasi-jonglerie en mélangeant, comme on mélange un jeu de cartes.
Bref, ça se fait au grand jour, c'est ça que vous voulez nous dire, Jean-Paul.
Voilà. Philippe... Alors, je vois ça, je me dis que finalement, c'est tentant, quoi. Je connais pas les prix parce que j'ai pas acheté, mais si c'est moitié prix, je fumerais plus, je serais honnêtement tenté. Alors moi, je le sais et j'ai le sentiment... que personne d'autre à cette
Alors, je voudrais qu'on entende Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes, pour réagir à votre témoignage. Vous aussi, vous les voyez, vous, les buralistes, ceux qui vendent comme ça en contrebande?
Malheureusement, c'est un vrai constat alarmant, aujourd'hui, de voir ce tabac vendu dans la rue, partout, même devant nos établissements. Vous citez Lyon, j'y serai dimanche pour animer un débat, mais ici, à la Gare du Nord, Barbès, mais Toulouse, le marché Saint-Sernin, il y a des années que nous dénoncions ce phénomène, que le rapport d'Eric Werk et Ziv Kaparc a mis au jour
pour
Helmand,
oui.
sachant qu'il y a quelques années, nous étions face à un marché parallèle transfrontalier. On pouvait le dénoncer avec la Belgique, le Luxembourg, oui. l'Andorre, l'Espagne, bien évidemment, étant moi-même buraliste frontalier. Aujourd'hui, on a franchi un cap. Madame la directrice vient de le dire à l'instant, nous sommes face à de la criminalité organisée avec des produits spécifiquement fabriqués pour alimenter ce marché parallèle. Et là, il y a un danger en termes de santé publique, de criminalité et d'ordre public.
Et Corinne Cléostrate, on ne peut rien faire contre ces vendeurs à la sauvette ?
Ah si, et nous agissons de plus en plus, pour répondre à notre auditeur qui est sur Lyon, eh bien en fait, depuis le début de l'année, que ce soit sur Lyon ou toutes les autres grandes agglomérations, nous avons mené, et pas seul d'ailleurs, en coopération avec des services du ministère de l'Intérieur, que ce soit la police, la gendarmerie, les polices municipales aussi, qui nous aident dans cette tâche, eh bien nous avons mené des centaines d'opérations pour justement contrer ce phénomène de vente à la sauvette. Et si vous me permettez,
allez-y.
Par rapport à ces cigarettes, je tiens à dire que fumer, évidemment, est très
mauvais
dangereux,
pour la
mais
santé,
fumer
pardon,
ces cigarettes, évidemment, l'est encore plus, puisqu'on a fait des analyses, nos laboratoires ont fait des analyses, et ont découvert qu'il y avait finalement souvent très peu de tabac, mais beaucoup de métaux lourds, du ciment, du plâtre, mais aussi parfois des chiures de mouches, des excréments de rats. Donc voilà, donc ces cigarettes, elles coûtent peut-être effectivement moins cher que chez le buraliste,
d'ailleurs,
mais
si
elles sont vraiment très dangereuses.
En si un mot, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Souvent, ceux qui organisent ces réseaux viennent eux-mêmes acheter leur propre consommation dans le réseau des buralistes, parce qu'ils savent ce qu'ils
que
vendent.
Que c'est meilleur. Corinne Cléostrate, une dernière question, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Le 1er novembre est entré en vigueur une mesure locale, si l'État le demande, empêcher Waze de signaler les contrôles des automobilistes pour contrôle d'alcoolémie, contrôle stupéfiant. Ça vous aide aussi dans la lutte contre la contrebande de cigarettes ?
Toutes ces mesures, évidemment, sont de nature, évidemment, à renforcer l'efficacité de nos dispositifs de contrôle.
Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Inter.